Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. Moi je suis... Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, il y a des malades. Bonsoir Théo. Ah, il me fait un coucou, c'est adorable. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver encore juste un peu avant les vacances. Alors aujourd'hui, on va avoir des recettes qui vont donner une envie de vacances, de voyage, et ça va donner un avant-goût de vacances pour ceux qui partent. Mais pour ceux qui restent, ça va leur permettre de voyager. Donc on va voir ensemble ce qu'on a prévu de vous donner en recette. Allez, c'est parti, je vous donne tout. C'est dans un premier temps, on verra les moules gratinées. Vous allez voir que c'est très très simple à faire, pas très compliqué. Donc pour ça, il vous faut un oignon, une cuillère à soupe d'herbe de Provence, une demi-bouteille de vin blanc, 4 cuillères à soupe de farine, 10 centilitres de lait, une cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 kg de moule. Pour le matériel, il vous faudra 6 petites cocottes. Moi, j'aime bien les mettre en petites cocottes. C'est bien présentable. J'ai enlevé les coquilles parce que vous avez deux formes, deux façons de faire. C'est où on garde les coquilles et c'est plus pénible à faire, je trouve. Mais ça sera pour une recette un peu plus persillée une autre fois. Vous gardez pas les coquilles, vous les mettez dans les cocottes. Vous allez voir, je vais vous donner plein de petites astuces aujourd'hui. Côté matériel, donc 6 petites cocottes allant au four, bien évidemment, une cuillère en bois, et puis un fait-tout avec son couvercle et un fouet. Et en plat, je vous ai préparé donc un plat japonais qui s'appelle le oyakodon, qui est un plat totalement traditionnel japonais. Vous verrez, Nathalie nous dira d'où il vient et ce qu'il veut dire. Pour ça, on a besoin de 3 oignons moyens, de 6 poireaux, la partie verte uniquement. Pour la partie blanche, vous ferez du potage si vous le souhaitez. 2 verres de riz rond, 6 cuillères à café de sucre, 300 g de filet de poulet, des escalopes, hein, vous embêtez pas avec à chercher, 6 œufs, 6 cuillères à soupe de sauce de soja et 1 cuillère et demie à café de dachi. Ou moi je préfère, enfin moi perso, je mets du bouillon de poisson, voilà, en poudre. Je mélange ça avec du lait ou avec de l'eau et ça va bien. C'est surtout avec du lait pour cette recette-là. Au niveau matériel, on aura besoin d'une sauteuse et son couvercle, un couteau, un économe, une poêle, un plat de service, une cuillère en bois et une spatule. Et puis, on finira notre recette par un crumble fondant au chocolat et aux fruits d'automne, puisque moi, je cuisine par rapport aux produits de saison. Hein, on va pas aller chercher, on va éviter d'aller chercher les produits qui ne sont pas forcément de saison. Donc pour cela, on aura besoin de 4 pommes, 3 bananes, 50 g de chocolat noir, 100 g de beurre en petits morceaux, 150 g de cassonade, donc en poudre, c'est mieux, ou du sucre en poudre, comme vous voulez. On aura besoin de 100 g de farine, d'un demi-sachet de levure, d'une cuillère à café de cannelle en poudre. Ça, c'est facultatif. Il y en a qui n'aiment pas, donc vous n'êtes pas obligé de la mettre. Et puis, pour côté matériel, on aura besoin d'une cuillère en bois, de 2 saladiers et d'un plat à gratin ou de 6 plats individuels en terre, style un petit peu quand on fait les crèmes brûlées ou les crèmes caramel. Voilà, c'est un plat en terre qui vont au four, c'est très très bien. Voilà, Avant de commencer, je pense que Nathalie, tu vas nous parler un petit peu de nos moules. Hein, pas des moules pour la pâtisserie.
Oui, pas les moules à gâteau. Hein.
Mais les moules gratinées, puisqu'on va commencer par cette recette.
Oui, alors pour les moules, un récit publié à la fin du XVIe siècle raconte qu'en 1235, un naufragé écossais, Patrick Walton, vient s'échouer en baie d'Aiguillon, à une demi-heure du port Estland. Il fut recueilli par les habitants de la région et s'y installa. Sans ressources, il décida de reprendre ses activités habituelles, notamment la chasse aux oiseaux de mer. Des filets étant tendus sur le littoral entre des piquets de bois enfoncés dans le sol, le chasseur eut la surprise de constater l'envahissement de ses poteaux par de nombreuses petites moules, dont il observa la rapide croissance. Par la suite, il lui apparut plus profitable de capturer des moules et de les engraisser plutôt que de chasser les oiseaux. Il aurait de cette façon inventé les premiers parcs à moules sur bouchot. Longtemps, cette technique d'élevage sur bouchot ne s'est pratiquée que sur la côte atlantique française, région où le naissin se fixe naturellement sur les pieux. La production de moules s'accroissant, elle est pour la première fois réglementée en 1681 par Colbert. La deuxième moitié du XIXe siècle voit le véritable essor de la mythiculture. Donc voilà, la mythiculture, c'est l'élevage des moules, hein, en fait. Sur la côte atlantique de la Vendée à l'Estran d'Oléron. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans la région du Mont-Saint-Michel, on tenta la culture des moules selon différentes méthodes, sur planche ou pierre, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. C'est en 1954, au Vivier-sur-Mer, qu'est née la mythiculture en baie du Mont-Saint-Michel. Cette nouvelle activité s'est rapidement développée grâce à des conditions de milieu tout à fait favorables. Très rapidement, ensuite, les essais, en baie de Saint-Brieuc, de la Fresnaye et de l'Arguenon, dans les Côtes d'Armor, furent eux aussi concluants. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc je bafouille. La mythiculture sur bouchot est apparue sur la côte Est du Cotentin en 1956, mais c'est à partir de 1963 sur la côte ouest que cette culture va rapidement se développer, et notamment dans les régions d'Agon et de Pirou.
Merci Nat. Donc vous voyez les moules de bouchon, voilà d'où elles viennent.
Ouais.
C'est la culture sur des poteaux.
C'est ça.
Voilà, donc je pense que nos auditeurs ne savaient pas forcément, ou si vous le saviez, ben, c'est formidable, mais je pense qu'il y en a certains qui ne savaient pas. Et ça change de la culture des huîtres qui se fait différemment. Voilà, donc on en parlera, les moules, parce que ben, c'est un plat de chez moi aussi, les moules. Hein, on fait souvent des moules frites chez moi,
ah bah oui.
Dans le Nord. Voilà, ben, écoutez, on va commencer donc nos recettes par les moules gratinées. Alors je vous rappelle les produits. Ça me rappelle les vacances passées, mais les vacances qui arrivent, c'est moules, la pêche aux moules. C'est qui chantait ça? C'est Jacques Martin de mémoire.
Ah, la pêche aux moules. Jacques Martin avec toute la bande.
Oui, toute la bande. Donc voilà, un beau petit souvenir. Alors, pour justement ces moules gratinées, vous aurez besoin donc de 20 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Je vous rappelle un petit peu les ingrédients. Donc, on aura besoin d'un oignon, d'une cuillère à soupe d'herbes de Provence, d'une demi-bouteille de vin blanc, de 4 cuillères à soupe de farine, de 10 centilitres de lait, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive et de 2 kilos de moules. Alors ça, c'est pour une recette de 6 personnes. Hein, à chaque fois, j'essaye de faire des recettes pour 6 personnes, de façon à ce que vous puissiez en manger le lendemain si vous êtes que 4. Voilà. Côté matériel, vous aurez besoin donc de nos fameuses 6 petites cocottes. Donc avec le couvercle, c'est mieux. Allant au four, bien évidemment. Une cuillère en bois, une poêle et un couvercle. Et puis un fouet. Donc pour commencer, on va donc faire revenir les oignons émincés avec une cuillère à soupe d'huile d'olive dans un faitout. Donc vous attendez que l'oignon devienne un petit peu translucide. Une fois que l'oignon est un peu translucide, vous allez y rajouter vos herbes de Provence. Vous allez mélanger quelques minutes, vous sentez un petit peu la bonne odeur de Provence, qui, c'est pas ce qu'on recherche, c'est de cuire et que l'oignon prenne le parfum des herbes de Provence. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter vos moules. Bien évidemment, vos moules, vous les aurez nettoyés et enlevez un petit peu les particules qui est sur les coques. C'est mieux parce que c'est moins désagréable à manger. Comme on ne va pas manger les coques, il faut enlever tout ce qui est moustache et tout ça, tout ce qui est un petit peu algues, micro-algues. Faut bien les nettoyer quand même pour éviter qu'elles se retrouvent dans le jus. Donc on ajoute les moules à la préparation et on verse la demi-bouteille de vin et on couvre. Et vous allez voir qu'en quelques minutes, vos moules vont s'ouvrir avec la chaleur et elles vont cuire. Une fois que elles sont ouvertes, vous allez les décortiquer. Donc vous arrêtez votre feu et vous allez les décortiquer. Alors vous faites attention parce que c'est très chaud, mais ça va refroidir très très vite. Donc ça va vite à décortiquer. Alors c'est vous où vous prenez de la grosse hollandaise, c'est comme vous voulez. Ou en ce moment on est dans une période de justement des moules de bouchon. Donc là vous pouvez essayer d'être plus petite. D'accord, donc c'est l'une ou l'autre. Moi, c'est comme vous le sentez en fin de compte. Et par rapport à votre budget, puisque on a quand même des moules qui sont un petit peu plus chers. Voilà, mais on est en pleine période des moules, donc allez-y gaiement. Voilà, donc nos moules se sont ouvertes avec la chaleur, elles sont légèrement cuites, même si elles ne sont pas entièrement cuites, on va les recuire après par derrière. On va garder le jus de ces moules, donc on a sorti toutes les moules, on les a décortiquées. Et puis, donc, on les met de côté, les moules, et on garde le jus. Et ce jus, on va le remettre sur le feu pour le porter à ébullition. Une fois que c'est à ébullition, vous allez délayer dedans 4 cuillères à soupe de farine avec 10 centilitres de lait. Donc, je vous donne l'astuce. Dans un petit bol, vous mettez les 10 centilitres de lait, vous mettrez vos 4 cuillères à soupe, vous mélangez avec une petite cuillère et après cette préparation, vous allez la mettre dans le jus. Ne mettez pas vos 4 cuillères directement et on fait à part. Et après, à la limite, vous pouvez même rajouter une cuillère de jus de façon à ce que ça prenne la chaleur du jus. Et après, vous pouvez tout remettre dans la casserole. Une fois que le jus est de nouveau porté à ébullition, hors du feu, vous allez mélanger donc au fouet cette préparation farine et lait. Et vous allez voir que ça va épaissir. C'est comme si vous mettez de la maïzena. La farine, c'est fait pour épaissir cette sauce. C'est fait exprès. Quand vous voyez qu'elle s'épaissit, donc hors du feu, on est d'accord, hein. Quand vous voyez que ça s'épaissit, vous le remettez sur feu doux, donc sur le feu doux, pour obtenir la consistance que vous voulez. Alors ça va aller très rapide. Si vous avez une consistance très épaisse, à la limite vous rajoutez un petit peu d'eau ou un petit peu de lait, ça lui fera pas de mal. Hein. Donc si par contre c'est trop épais, trop liquide, vous la laissez un petit peu plus longtemps sur feu doux. Faut pas que ça bouillonne à partir du moment où on a mis de la farine. Et puis, vous allez verser la préparation obtenue. Donc, non, avant ça, on va remettre les moules dans le jus. Voilà, on les mélange bien à la préparation, donc qui fait un petit peu style béchamel. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une préparation qui est onctueuse et un petit peu épaisse. Et donc, vous mélangez bien avec les moules et vous versez le tout dans les plats individuels. Voilà, c'est tout simple à faire. C'est juste une petite préparation à décortiquer. C'est un peu, je dirais un peu long, mais ça va relativement vite. 2 kilos, c'est pas énorme. Et puis, vous parsemez, avant de mettre au four, vous allez parsemer vos petits plats de gruyère. Voilà, et vous mettez au four à température 180 degrés pendant 30 à 40 minutes. Voilà. Alors, ça vous fait une belle entrée. Mais il faut savoir que si vous voulez le faire en plat principal, vous pouvez, accompagné de frites si vous voulez, comme ça c'est bien gras et ça tombe bien dans les hanches. Dans ces cas-là, il faudra que vous prévoyez 1 kg de moules par personne. Hein, c'est ce qu'on prévoit pour les moules marinières. Donc voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette recette. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Au bout de 40 minutes, vous les sortez, vous les servez. Votre plat, vous le mettez sur une assiette pour éviter que ça soit... que ça soit trop chaud, et puis vous servez comme ça avec alors en entrée hein, sans problème, mais si c'est en plat principal ou du riz ou des frites comme dans le nord on peut faire. Vous pouvez rajouter à la place du gruyère, vous pouvez rajouter de la chapelure pour ceux qui n'aiment pas le gruyère. La chapelure, ça fait un effet croustillant, ça peut être aussi sympa. Voilà au niveau de nos moules gratinés. Ben écoutez, je vous propose qu'on se retrouve après un peu de musique. À tout de suite.
Parc Babyland à Milande, 34 attractions. La nouveauté 2022, une expérience unique. Bonjour professeur.
Ici le professeur W. Je vous invite à monter à bord de ma nouvelle création, le Pteranodon.
Le professeur W, créateur de dinosaures, vous invite dans son laboratoire pour découvrir sa toute nouvelle invention. Une attraction familiale vous permettant de vous envoler à plus de 30 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, nous revoici pour une nouvelle recette, ce qui est le oyakodon, qui est un plat japonais. Nathalie, tu vas pouvoir peut-être nous en parler et éclairer nos lumières.
Je vais essayer. Alors, l'oyakodon, c'est un donburi, un mets japonais, donc qui est composé d'une garniture sur un bol de riz. Oyako signifie parent et enfant, car ce plat est élaboré avec du poulet parent et des œufs enfants. Dans le même esprit, il existe aussi le Kaizen Oyakodon, composé de saumon et d'œufs de saumon, Ikura. Voilà, je vous parlerai japonais après cette émission. L'Oyakodon est par ailleurs assaisonné en général avec du dashi, du mirin et de la sauce de soja. Il existe aussi préparé avec des udon à la place du riz. Il porte dans ce cas le nom de Oyako Udon. Voilà.
Ben voilà. Donc là, vous avez été... Moi, j'aime bien cette recette parce que c'est parent-enfant.
Oui.
Voilà. c'est cette signification et vous allez voir, c'est une recette relativement facile que vous allez pouvoir faire avec, justement, entre parents et enfants de tout âge. Alors, pour justement ce oyakodon, on va avoir besoin de 40 minutes... de temps en totalité, à savoir qu'il y aura 20 minutes de préparation et 20 minutes de cuisson. Vous voyez, donc c'est rapide, c'est quelque chose que vous pouvez faire et refaire sans aucun problème. Côté ingrédients, vous aurez besoin de 3 oignons moyens, de 6 poireaux et on ne prendra que la partie verte, de 2 verres de riz, parce que c'est un plat qui est essentiellement fait de riz, puisque on n'a que 300 grammes de filet de bœuf. Alors pour 6 personnes, vous allez me dire, ça fait 50 grammes, c'est pas énorme, mais il faut savoir qu'au Japon, ils mangent très très peu de viande et de poisson, mais que c'est essentiellement le riz qui va faire le plat. Et puis les œufs qu'on va mettre à l'intérieur. Je continue dans mes ingrédients. Donc il faut 6 cuillères à café de sucre, donc 300 g de filet de poulet, 6 œufs, et 6 cuillères à soupe de soja, une demi-cuillère à café de bouillon de poisson ou de dashi. Hein, mais moi le dashi, j'ai du mal. Donc du coup je prends du bouillon de poisson et ça va très très bien. Et puis, côté matériel, on aura besoin d'une sauteuse et son couvercle, d'un couteau, d'un économe, d'une poêle et d'un plat à service, vous allez comprendre pourquoi, d'une cuillère en bois, d'une spatule. Voilà, donc pour les ingrédients, allez, c'est parti. On va déjà commencer par cuire le riz. On le fait comme un risotto. Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait de risotto, c'est simple, vous mettez votre riz dans une sauteuse. À feu vif, et vous allez vous mettez que le riz et vous allez laisser revenir un petit peu, qu'il devienne un peu translucide, qu'il ne soit pas cramé. Vous faites attention, c'est pour ça qu'il faut le remuer. Et quand vous voyez que c'est un peu translucide, un petit peu transparent, qu'il a changé sa couleur, vous allez ajouter de l'eau. Donc en général, là pour ce plat, on va rajouter 2 verres d'eau, mais vous allez le faire progressivement. Vous attendez au fur et à mesure que l'eau s'évapore. Vous allez voir, le riz va tout de suite absorber. Et puis, vous remuez tout le temps. Et le risotto, il est fait comme ça. Donc, ça va vous faire un riz qui va être collant. C'est fait exprès. Voilà. C'est fait exprès. Donc, alors ceux qui n'aiment pas le riz, vous le faites cuire comme d'habitude. Hein, vous mettez l'eau et le riz à froid et vous le faites à ébullition. Vous comptez le nombre de minutes qu'il faut pour qui est marqué sur le paquet, parce que maintenant avec les différents riz, on a différentes cuissons, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc moi je reviens sur mon risotto. Donc on a vraiment un riz qui est un peu collant. L'eau doit s'évaporer au fur et à mesure. Hein, donc vous baissez le feu et vous avez à attendre que l'eau s'évapore complètement. Donc suivant la cuisson du riz, ça peut être de 10 minutes à 20 minutes sur feu doux. On est bien d'accord, pour pas que ça crame, prévoyez une casserole à fond Tefal, comme ça ne colle pas. Voilà. Donc une fois que votre riz il est fait, vous allez le maintenir au chaud tranquillement. Et puis on va passer à éplucher les oignons. Donc les oignons, vous en avez deux à éplucher et à couper. Vous les coupez un petit peu en morceaux de 5 mm en rondelles. De façon, prenez pas votre mètre. Donc voilà, ça sert à rien de faire ça finement. C'est plus un peu grossièrement. Et puis vous allez couper votre poireau, donc je vous rappelle que c'est le vert qu'on prendra en tronçon d'un centimètre. Voilà, donc c'est pareil, on n'émince pas là pour le fait, on fait en tronçon d'un centimètre. Et puis vous allez verser donc un verre d'eau dans une poêle avec le bouillon. Donc la fameuse poudre de bouillon de poisson. Vous le mélangez dans un verre d'eau et vous portez à ébullition ce bouillon. Et vous allez ajouter dans ce eau bouillonnante les oignons et puis les poireaux. Et dès que vous voyez que les oignons et les poireaux ont ramolli, vous allez ajouter le poulet. Alors à feu tranquille, hein, gentiment, ça doit pas forcément bouillir, donc à feu doux. Et une fois que vous avez rajouté le poulet, vous rajoutez le sucre, la sauce de soja, et vous allez laisser cuire doucement pendant 15 minutes. Voilà, donc ça c'est une partie de la préparation. Une fois que vos 15 minutes sont passées, vous allez casser les 6 œufs dans un bol et les mélanger comme si vous faisiez une grossière omelette. Hein, faut pas que ça soit forcément bien homogène. Et quand vous voyez que la viande, au bout de 15 minutes, elle a changé de couleur, ça veut dire qu'elle est cuite. Et là, vous allez verser. Alors, c'est tout le principe de ce plat, c'est que l'œuf doit entourer votre viande et vos légumes. Donc, en fin de compte, vous allez verser vos œufs sur le contour de la poêle. Vous voyez, sur le bord de la poêle. Comme ça, ça va emmagasiner la sauce et la viande. Et puis, vous allez avoir votre espèce d'omelette tout autour de ce plat. Vous allez couvrir ce plat de façon à ce que l'œuf puisse bien cuire. Et quand vous voyez que le contour, il est cuit, vous éteignez votre feu et vous laissez couvert quelques minutes. Et vient au moment de servir. Donc au moment de servir, vous mettez le riz dans un plat et vous faites glisser votre préparation par-dessus l'ensemble, par-dessus le riz. Et voilà, c'est prêt à déguster. Vous voyez, c'est pas compliqué. On a vraiment fait en 20 minutes et en 40 minutes, grosso modo, on a fait notre plat. Mmh. Voilà, c'est vraiment très très simple. Si vous devez le faire réchauffer, laissez-le bien au chaud, que ce soit le riz ou que ce soit la préparation, laissez bien au chaud et puis vous servez. Et c'est un plat qui se partage. Alors vous pouvez le mettre en bol, ça c'est plus compliqué parce que on doit préparer à chaque bol le riz et puis faire à chaque fois la préparation. Là moi je l'ai mis en plat entier et puis chacun prendra ce qu'il a envie. Mais c'est les parents qui aient le poulet sont entourés d'enfants. C'est ça l'image. Voilà. Donc, écoutez, à vous de déguster cette recette, de préparer cette recette et puis de partager avec vos amis et enfants. Voilà, je vous retrouve pour une recette de dessert après cette pause musicale. À tout de suite.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, l'étanger. Et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me
sûre de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger, danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On ne peut pas s'en empêcher.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, et bien écoutez, nous revoici donc pour le crumble fondant au chocolat et aux fruits d'automne. Nathalie, est-ce que tu peux nous dire peut-être quelque chose sur le crumble, sur la naissance du crumble peut-être?
Ouais, le crumble, donc en général aux fruits, mais aussi appelé croustade au Canada. Et est un dessert d'origine britannique, composé d'une couche de fruits dans le fond du plat et d'une couche de pâte à l'apparence émiettée, appelée aussi chapelure, d'où le nom anglais de « to crumble », signifiant « tomber en miettes ». Le crumble a été créé au Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale à cause du rationnement. Les ingrédients nécessaires à la préparation de tartes nécessitant trop de farine, de beurre et de sucre, l'adjectif anglais « crumbly » signifie fiable, friable, pardon. En Pologne et en Slovénie, on prépare depuis le 19e siècle des pâtisseries avec cet émietté, mélange de farine, sucre et beurre.
Eh bien, merci Nathalie. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait la France, les Côtes d'Armor, on a fait le Japon, le Canada, l'Angleterre. De mémoire, on a parlé aussi de l'Écosse. Voilà, quel voyage juste avant les vacances. C'est un doux, c'est super, c'est sympa, je trouve. Merci Nathalie pour avoir éclairé nos lanternes. Donc, alors, ce crumble d'automne, moi je l'ai appelé crumble d'automne parce qu'il est fait essentiellement avec les fruits. Là, moi je l'ai fait avec des pommes et puis des bananes, mais vous pourriez le faire aussi bien avec des poires, des pommes et de la banane. Là, pour le fait, on ne va pas rajouter de fruits rouges puisque les fruits rouges ne sont pas de saison en automne, si ma mémoire est bonne. Hein,
mais... Il reste encore quelques petites framboises, je crois.
Alors, moi, j'ai encore des rejets de framboises, oui, et aussi. Elles sont encore vertes et elles vont mûrir là.
Je suis même pas sûre qu'elle mûrisse, parce qu'il n'y a plus de soleil.
Je ne suis pas certaine. Écoute, on verra, ouais. On vous en reparlera à ce niveau-là. D'ailleurs, en fin d'émission ou à la fin de la recette, on vous avait parlé d'une espèce de ganache de chocolat chaud que j'avais. Oui. Et on avait dit, je vais faire l'essai. Et ben, on a fait, pendant la petite coupure, on a fait on a goûté et on va vous donner nos impressions. Voilà, et puis je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait mes petites préparations de chocolat. Pour le moment, on revient à notre crumble d'automne. Pour donc les ingrédients, je vous les rappelle, on a besoin de 4 pommes, 3 bananes et 50 g de chocolat noir, 100 g de pommes de terre, n'importe quoi, de beurre en petits morceaux. Et puis, on va avoir 150 g de cassonade, et puis 100 g de farine, et puis un demi-sachet de levure chimique, et une cuillère à café de cannelle en poudre. Et puis, voilà, pour le côté matériel, vous aurez besoin de pas grand-chose. Vous allez avoir besoin d'un saladier et de vos mimines, surtout. Et puis, surtout, d'un plat à gratin. Alors, moi, j'ai mis dans un plat à gratin parce que ça peut être familial, mais vous pouvez mettre dans des plats individuels. Voilà, il faut savoir que ça, s'il vous en reste, moi chez moi il m'en reste jamais. Quand c'est des plats individuels, moi j'en fais plein, je peux le mettre au congélateur comme ça. Je peux le réchauffer et ça me fait un dessert pour le goûter. Et donc pour le matériel, il vous faudra donc vos mimines, une cuillère en bois et deux saladiers. Et puis plat gratin ou les 6 plats individuels. Voilà, je retrouve ma recette, bien évidemment. Donc dans un premier temps, on va dans un saladier, on va verser la farine, la cannelle, la levure et le sucre. On va mélanger et puis on va rajouter le beurre coupé en dés. Donc plus ça sera petit, mieux ce sera, mais enfin vous prenez pas la tête hein, puisque après vous allez malaxer. Alors vous pouvez le malaxer avec un fouet, mais c'est très 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 pénible. Moi je prends mes mains, voilà. Donc mes mains, elles sont propres, je les passe sous l'eau avec du savon, je les nettoie, je m'essuie bien les mains et après je les malaxe avec les mains parce que ce qu'on cherche, c'est une préparation qui va ressembler à un petit peu de la chapelure sans est très compacte. Voilà, donc ça va et il faut que ça soit des miettes qui se forment. Vous allez voir, ça va se faire assez rapidement. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez, que la pâte elle est collante, vous rajoutez un petit peu de farine. Mais en général, avec la recette que je vous ai donnée, c'est bon. Alors, vous ne travaillez pas trop cette préparation parce que plus vous allez la travailler, plus votre beurre va fondre. Donc, ça va coller automatiquement. Donc, le mieux, c'est de faire ça à température ambiante avec avec le beurre qui est pas trop trop chaud non plus. Là, une fois que votre préparation un petit peu émiettée est faite, vous la mettez de côté, vous allez peler donc avec un économe vos fruits, et vous allez couper vos pommes en quartiers et en morceaux, en gros morceaux, hein, et puis vos bananes en rondelles, assez épaisses, ça sert à rien, mais il faut aussi que ça rentre dans le plat, que ça soit pas non plus trop gros. Et puis vous allez beurrer vos moules, alors ou les moules le moule à gratin ou les moules individuels, vous les beurrez et vous les saupoudrez de sucre, vraiment de sucre ou de cassonade. Et puis vous allez déposer vos fruits. Et vous allez casser vos pépites de chocolat. Alors moi, j'ai une astuce. Hein, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets mes pépites, mon chocolat, parce que je prends mon chocolat à croquer. Je trouve pas forcément des pépites. Et puis, je trouve qu'elles coûtent très cher dans le commerce. Donc, je prends mon chocolat, que je coupe déjà en morceaux, en carrés. Et puis, je mets tout ça dans un torchon où je le tape, le torchon et le chocolat, je le tape sur le plan de travail où je prends un marteau et je tape à plat, le marteau à plat hein, sur le champ. Voilà. Et puis, vous allez mettre ce chocolat sur les fruits. Une fois que vous avez mis donc le sucre saupoudré, les fruits à l'intérieur de votre moule, le chocolat par-dessus, donc vous, c'est 50 grammes hein, de chocolat, donc ça ne sert à rien, on n'en met pas plus. Il faut juste que ce soit légèrement fondant. Et bien, vous allez ajouter la pâte uniformément sur les fruits et vous allez enfourner dans un four à 250 degrés, hein, un four bien chaud, pendant 15 à 20 minutes. Donc, tout dépend de la grosseur de vos fruits. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une croûte qui se forme et que ça soit bien doré. Donc vous faites vraiment attention à cette cuisson et ben vous pouvez à la sortie du four déguster. Alors pas à la sortie du four parce que c'est brûlant. Alors ça va vous paraître pas très chaud parce qu'il y a la croûte. Mais à l'intérieur, le fruit, comme il va être à peine saisi et encore légèrement croquant pour la pomme, eh ben vous allez avoir la chaleur qui va se dégager. Donc vous faites attention à votre langue et vos lèvres, parce que sinon ça peut vous brûler. Moi je le sers tiède et puis je rajoute une boule de glace vanille dessus. Ça c'est miam miam. Voilà. Voilà pour le crumble. Aujourd'hui, on a vu trois belles recettes faciles à réaliser. Et puis avec peu de temps. Dans les prochaines émissions, vous verrez, on aura des recettes qui seront plus intenses. Pour le retour des vacances, j'avais prévu autre chose qui seront plus longues, mais qui sera un petit peu festif parce qu'on va arriver à l'approche de Noël et puis ça peut être sympa d'aimer un petit peu un peu plus complet. Voilà. Alors, on a un petit peu de temps pour des bonus. Donc, je vous ai préparé des bonus. Mais avant de vous les proposer, je vous propose un peu de musique et après, il y a deux bonus si on a encore le temps. À tout de suite.
Don't need permission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my witness, stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused, my mind is open. All that you got's gonna skip. Introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. All that you got, skin to skin. Oh my God, don't you stop. Something about you.
Something about
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, ben nous revoici. Donc, avant de vous parler un petit peu des bonus que je vais vous proposer, on a fait une dégustation. Donc, la semaine dernière, on vous avait parlé du chocolat et Nathalie nous avait dit, est-ce qu'on peut mettre du mascarpone avec le chocolat à croquer ? Vous savez, pour justement mettre sur la panna cotta, sur les tartines, pour voilà. Mais alors, ça s'appelle plus de la ganache. Parce que la ganache est essentiellement avec du chocolat croqué et puis de la crème fraîche. Donc on a goûté le côté chocolat fondu avec de la crème fraîche mélangée, donc la fameuse ganache. Et j'ai fait aussi le même principe, le chocolat fondu avec le mascarpone. Nathalie, alors, elle est un peu frustrée parce que Nathalie,
elle est enrhumée, donc j'ai pas trop le goût.
Mais on est tombé d'accord avec Théo qui l'a goûté aussi. Et franchement, Théo, je pense que tu peux nous dire.
J'ai préféré la M. Alors, donc, je te laisse préciser c'est laquelle, parce que moi, il y a juste écrit C ou M sur les petits pots.
Voilà, alors la M, c'est mascarpone, bien évidemment, et la C, c'est crème. Donc, moi aussi, j'ai aimé la M, parce que le mascarpone, il adoucit, et je n'ai pas rajouté de sucre. Et c'est l'idée de faire ça sans rajouter de sucre. Donc, alors que la crème, on va garder l'acidité de la crème d'origine, et puis l'acidité du chocolat. Voilà. Alors que le mascarpone, c'est beaucoup plus doux. Alors, Nathalie me dit qu'il y a moins de matière grasse. Moi, je suis pas certaine.
Il me semble, je vérifierai, mais il me semble que c'est moins calorique que la crème.
Mais voilà. Mais c'est vrai que là, pour le fait, j'aime bien avec le mascarpone parce que ça a un goût très doux et très velouté. Vraiment, c'est. Mais et la consistance est la même. Par contre, c'est encore un peu tiède puisque je les ai fait tout à l'heure avant l'émission. Donc, il faudra attendre que ça soit bien froid pour voir si on peut rouler comme pour les truffes. Donc, voilà, comme je vais laisser les deux petits pots à Nathalie, Nathalie essaiera et puis elle nous dira après par la suite.
Ouais. Voilà. Mon nez sera un peu plus ouvert à votre dégustation.
Oui, et ben, fais-le ça rapidement parce que ça ne va pas attendre 3 jours.
C'est clair,
plus,
hein. J'aimerais bien que ça passe rapidement. Ouais.
Voilà, alors, je vais revenir sur mes bonus. Alors, aujourd'hui, on va faire du pistou et du pesto. Alors, le pistou, ça va être à base essentiellement de basilic. Je vais vous donner la recette. Et le pesto, c'est cet été que nous, on a fait ça avec Alain, mon mari, puisqu'on avait plein de courgettes jaunes. Et ben, on l'a fait pesto de courgettes jaunes. Vous allez voir, la recette est aussi facile que le pistou. Faut juste pas se tromper. Alors, dans un premier temps, pour le pistou, il vous faudra 10 minutes de préparation, vous voyez.
C'est pesto.
Pistou, je me suis trompée.
Ah d'accord,
voilà,
ok.
C'est pistou. Il y a des fois où je me gourre entre le pistou et le pesto. Il faut savoir que les deux choses sont identiques. C'est juste une question de province.
Oui, c'est ça, le pistou, c'est plus dans le sud-sud, hein, je pense.
Je pense, mais bon, après, je ne donnerai pas ma langue au...
Pistou, c'est plus italien, peut-être, non ?
Je ne sais pas. Alors ouais. Là, on fera nos recherches. Ouais. Voilà. Voilà. Moi, le pistou, côté ingrédients, vous allez avoir besoin d'un bouquet de basilic. Donc, c'est essentiellement fait avec du basilic, avec 2 gousses d'ail et puis 50 grammes de pignons de pin. Vous savez, c'est des petites graines. Et puis, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Évidemment, du poivre, du sel et on va rajouter du 100 grammes de parmesan. Alors c'est pas compliqué hein, pour cette recette parce que si vous avez un mixeur c'est encore mieux. C'est d'ailleurs c'est en fin de compte le matériel qu'on a le plus besoin dans une cuisine, c'est un mixeur. Donc vous mettez tous les ingrédients dans le mixeur, c'est-à-dire le basilic, l'ail, les pignons, l'huile, le parmesan, le sel et le poivre. Voilà, et puis vous mixez. Et moi je mets tout en même temps. Il y en a qui rajoutent le parmesan au fur et à mesure et il y en a qui mettent l'huile petit à petit. Moi, je fais tout dans le mixeur. Ça dure 30 secondes, voire une minute. J'ai vraiment quelque chose de très, très liquide et un petit peu épais. Et voilà, votre pistou, il est fait. C'est pas compliqué, c'est relativement simple, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il faut juste avoir le bon matériel et les bons ingrédients. Voilà, votre pistou, ben, il est prêt, donc vous pouvez le mettre au frigo plusieurs jours, le conserver plusieurs jours au frigo. Alors, me demandez pas combien de temps, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait l'essai là-dessus et que je n'ai pas envie, mais il faut savoir que c'est de l'huile d'olive, donc, ça peut durer une éternité. Voilà, enfin une éternité, ça dépend. Enfin, nous, on a une consommation de pistou parce qu'on le met partout. En fin de compte, vous pouvez le mettre au frigo, ça, je suis d'accord, mais il faut savoir que l'huile au frigo, elle se fige. Donc, pensez avant de vous en servir, de le sortir de façon qu'il prenne la température ambiante.
Alors, l'huile d'olive se fige beaucoup moins. Je crois que c'est l'huile qui se fige le moins.
Oui. Mais ça n'empêche qu'elle se fige. Alors ça peut être sympa quand tu l'as à mettre sur des petites tartines bien chaudes pour l'apéro, parce que ça, petite tartine un peu grillée à l'apéro, ça peut être sympa. Vous pouvez aussi le mettre dans les plats de pâtes, de riz, de légumes, dans vos salades. Enfin bon, il y a plein d'idées. Le pistou, vous pouvez en manger tant que vous voulez. C'est bon parce qu'il y a de l'ail. Voilà, et puis il y a du basilic, voilà, tout est bon. Alors, juste une petite astuce, si la texture est moins épaisse, ben vous doublez votre huile d'olive. Si la texture est moins épaisse, vous doublez votre huile d'olive. Et vous divisez, donc pour une texture, je vais y arriver, pour une texture moins épaisse, parce que vous allez voir le pistou c'est quand même un peu épais, vous doublez votre quantité d'huile, donc vous doublez, vous mettez 6 cuillères, et par contre vous divisez en deux le parmesan, voilà. Ça c'est à vous de voir, moi j'aime bien quand c'est épais, et puis au fur et à mesure je rajoute de l'huile d'olive, comme ça j'ai ma base qui reste. Voilà pour le pistou basilic. Maintenant, on va voir le pesto courgette. Alors pour ça, il va vous falloir quand même vous y prendre la veille. Parce qu'on a un temps de pause d'une nuit. Il y a une préparation de 40 minutes et 25 minutes de cuisson. Donc c'est un petit peu plus long. Profitez-en maintenant parce que les courgettes, on arrive à la fin. Moi, j'en ai encore dans le jardin, donc je vais faire les derniers pesto plutôt de courgettes jaunes. Vous pouvez aussi faire avec les courgettes vertes, mais perso, je l'ai pas fait. Voilà. Donc après, vous faites des essais. C'est ça qui est chouette dans la cuisine. Donc dans un saladier, donc plutôt la veille, dans un saladier, donc non, d'abord on va faire les ingrédients, excusez-moi. On aura besoin de 3 courgettes jaunes, de 25 grammes de pignon, de pain, de une pincée voire plus de curcuma, une pincée voire plus de piment d'Espelette, du sel, du poivre et 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, évidemment, 3 gousses d'ail. Alors, la veille, donc la veille de votre préparation, vous coupez vos courgettes en dés et puis vous enlevez les pépins qui sont à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de les couper en deux, de racler les pépins avec une cuillère à café, et puis après, vous le mettez en petit dé dans un saladier. Et puis, vous allez mélanger ça avec le curcuma. Alors moi, dans cette recette, j'ai mis une pincée, parce que les gens n'apprécient pas forcément le curcuma, mais il faut savoir que la courgette, comme elle est un peu fade, plus on va l'épicer, meilleure elle sera. Donc si vous rajoutez une cuillère à soupe de curcuma, c'est pas grave, hein, c'est pas fort le curcuma. Et puis donc vous mélangez donc le curcuma, vous mélangez avec l'huile d'olive. En fin de compte, tout ça va se ramollir dans la nuit. Vous couvrez votre saladier d'un film plastique et vous mettez au frais. Voilà. Donc ça, pendant une nuit, au bout de 24 heures, quand vous avez votre, vos courgettes sont ramollies. On va les faire chauffer dans une poêle et on va y mettre nos gousailles qui seront hachées. Hein, et puis on va ajouter les courgettes et on va les faire cuire pendant 25 minutes à feu doux. Avec le sel, le poivre, bien évidemment. Et puis, si vous sentez que c'est pas assez épicé, vous pouvez rajouter du curcuma. Il y a pas de problème. Une fois que c'est cuit au bout de 25 minutes, eh bien, vous allez mixer vos courgettes en rajoutant les pignons et en mettant le piment d'Espelette. Voilà, et ça, votre pesto, il est fait, vous pouvez le mettre dans les bocaux une fois que chaud, et puis vous retournez, et là, vous pouvez les conserver un petit peu longtemps. Moi, ça n'a pas le temps, encore une fois, de rester dans les placards, parce que je sers ça à l'apéro avec du pain grillé. Donc, vous voyez, le pain, moi, j'ai jamais de pain rassis, j'ai toujours du pain grillé à la maison. Ou alors des petits graissins, vous savez, les petits biscuits italiens. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Ben écoutez, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Voilà, je vous ai redonné plein de recettes, plein d'astuces. Je pense qu'on va se... je vais vous souhaiter d'excellentes vacances, même que vous partiez ou pas en vacances. Profitez de refaire ces recettes, toutes les recettes faciles. Alors, faites-les, hein, comme je dis toujours, ou entre amis à partager ou en famille. C'est toujours plus sympa. On se retrouve le 8 novembre, déjà, ça va être triste sans vous, le 8 novembre à 19h30. Je vous souhaite un bon appétit, parce que je pense que vous n'allez pas tarder à être à table ou vous êtes déjà à table. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vous tous. On vous embrasse et puis très bonne soirée. Bonne nuit.
Bonne nuit, bonne semaine, bonnes vacances.
Voilà. Tout bonne. Au revoir. Au revoir.